Grippe humaine, grippe animale, l'année 2017 commence avec dans les deux cas une augmentation marquée du nombre de cas justement. Quoi de commun entre la grippe d'un humain, celle d'un oiseau ou d'un bovidé? Quelles sont les spécificités de ces virus? Pourquoi le nombre de malades dépasse largement la moyenne saisonnière? Les réponses de mes invités dans un instant, avec vos messages bien sûr, toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Et puis à la une de la science, nous serons également au chevet des forêts cette fois-ci. Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui, au chevet des forêts intactes, sorte de forêts sauvages peu perturbées par les activités économiques et qui ont tendance à diminuer sur la planète. Un nouveau diagnostic vient d'être établi. On ausculte le problème avec le spécialiste des forêts tropicales, Alain Carcenti.
Et puis nous retrouvons la chronique de Science Improbable de Pierre Barthélémy à la fin de l'émission consacrée aux bonnes résolutions. Stéphanie Texier réalise notre Tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier avec Pierre de Certaines.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Grippe humaine, grippe animale dans un instant dans le dossier de l'émission avec mes invités que je salue, le virologiste Vincent Hinouf et Gilles Salva de l'ANSES. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue Vincent Hinouf. Est-ce que le pic de 4 grippes humaines a été déjà atteint à l'heure où nous parlons ou pas?
Peut-être, mais avec aucune sécurité. Encore ce matin, les indicateurs ne montraient plus une décroissance. On était à une sorte de plateau, donc je ne suis pas certain que le pic soit réellement dépassé.
Après une petite baisse la semaine dernière, tout à fait. Gilles Salva, du côté des animaux, on observe également une multiplication des cas là, cette année?
Oui, on a effectivement de nombreux cas, notamment dans le sud-ouest, et en particulier dans le département du Gers et au sud-est des Landes, que le ministère de l'Agriculture est en train d'essayer d'éradiquer en abattant les animaux contaminés, et les animaux en périphérie, surtout des palmipèdes, effectivement, ouais. Surtout des canards. Et on espère que ce virus ne va pas passer, quelques kilomètres de là, ou quelques dizaines de kilomètres de là, dans la région de la Chalosse, au sud des Landes, où on a là une très forte concentration de canards, qui ouais. Et donc d'espèces sensibles.
Allez, on en parle avec vous. Il y a beaucoup de questions très intéressantes, d'ailleurs, dans les deux cas qui se posent. Et puis, bien sûr, vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Les forêts intactes, elles représentent 20% des surfaces boisées de la planète, on le sait peu. Ce sont des forêts sauvages, souvent reculées et surtout peu perturbées. Eh bien, elles ont diminué 7,2% entre 2000 et 2013, ce qui représente une perte de 920 000 km². Résultats observés par satellite et qui sont retranscrits dans Science Advances par des chercheurs de l'Université du Maryland. Bonjour Alain Carcenti.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et spécialiste des forêts tropicales au CIRAD, le Centre de Recherche Agronomique pour le Développement. Alors l'étude qui nous intéresse donc porte sur les paysages forestiers intacts. De quoi il s'agit exactement?
Alors paysages, ou en français on peut dire des blocs forestiers intacts, c'est-à-dire ce sont des espaces de forêt naturelle qui sont non fragmentés, qui font, comme vous l'avez dit, 500 km². Alors pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 5 fois la superficie de la ville de Paris intramuros, quoi. Donc, et surtout, ce sont le critère, c'est qu'il n'y ait pas d'activité humaine détectable à distance, c'est-à-dire par satellite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu d'activité. Ce ne sont pas des forêts primaires, vierges, telles que l'on peut effectivement le voir. Il peut y avoir eu, dans le passé, de l'exploitation forestière sélective qui n'a pas laissé beaucoup de traces, mais on le voit simplement. On ne voit pas ça par satellite. Et vous pouvez trouver ces paysages forestiers intacts ou ces blocs forestiers intacts soit dans les aires protégées, il y en a un certain nombre, soit ailleurs, notamment dans des concessions forestières ou dans d'autres types d'écosystèmes.
Il y en a surtout au Canada, en Russie et au Brésil. Hein. Elles constituent les deux tiers des forêts intactes de la planète, c'est ça?
Oui, il y en a effectivement, ça se répartit dans la partie Sibérie, disons, ce sont des forêts boréales où il y a encore ces grandes masses de forêts parce que c'est logique, il y a assez peu de personnes, etc. C'est des conditions d'exploitation difficiles. Et puis, vous avez toute la zone tropicale avec l'Amazonie, avec l'Afrique centrale. Et il en reste un petit peu également en Asie du Sud-Est, même si elles ont pas mal reculé aussi.
D'accord. Alors, l'étude fait état d'une diminution d'un peu plus de 7% de ces forêts intactes entre 2000 et 2013. Ce chiffre, c'est une baisse significative?
Oui, enfin c'est significatif, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand on parle de baisse de ces forêts intactes, ça veut dire tout simplement, ça ne veut pas dire qu'il y a de la déforestation. Alors il y a de la déforestation par ailleurs.
Vous pouvez souligner la différence entre déforestation et exploitation forestière?
Bah, tout à fait. La déforestation, c'est quand vous avez un changement d'usage des terres. C'est-à-dire vous avez un espace boisé et il va être converti, par exemple, à l'agriculture ou à l'élevage. Et il faut également qu'il y ait un critère, c'est quand le couvert forestier descend en dessous d'un certain seuil. qui est fixé différemment selon les pays ou les organisations. Généralement, on prend 30%, mais la FAO prend 10% de couvert forestier. Donc on est à 11%, si vous voulez, on est en, pour la FAO, on est encore dans une forêt, et à 9%, on n'est plus dans une forêt.
Bah,
à condition qu'il n'y ait pas eu de changement d'usage des, à condition qu'il n'y ait pas de changement d'usage des terres. Par exemple, si une forêt brûle, elle ne change pas d'usage, il n'y a plus d'arbres pendant un certain temps, mais après, on va peut-être replanter derrière, etc. Donc ça, ce n'est pas de la déforestation. L'exploitation forestière, notamment sous les tropiques, c'est généralement une exploitation sélective, c'est-à-dire qu'on prend quelques spécimens par hectare d'arbres. On prend par exemple en Afrique centrale, on prend 1 à 2 arbres par hectare en moyenne sur une exploitation forestière. Donc si vous voulez, c'est de la dégradation, on peut appeler ça de la dégradation, encore que même le terme est contesté et discuté, mais nous ne sommes pas en déforestation.
Alors Alain Carcinti, justement, les dégradations les plus significatives hein, qui sont notées dans cette étude sont visibles en particulier en Australie, en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est. Les causes directes, c'est quoi exactement sur cette disparition ?
Ah bah écoutez, l'étude est claire. Hein. Si on globalise effectivement sur l'ensemble, le premier facteur, si vous voulez, du recul des blocs forestiers intacts, c'est l'exploitation forestière. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que pour exploiter des arbres, vous faites des routes, vous faites des camps, ce qu'on appelle des bases-vies, vous mettez éventuellement des industries, et à ce moment-là, par satellite, on voit tout de suite qu'il y a une fragmentation de l'espace, on voit des routes apparaître pendant un certain temps. L'autre cause importante, ce sont les feux, par exemple, et notamment en Amérique du Nord, il y a eu, lié aux sécheresses, il y a eu effectivement au Canada, il y a eu d'énormes feux. Vous en souvenez certainement, ouais. également en Asie. Donc ces feux ravagent donc des blocs de forêt intacts et automatiquement ça va se voir par satellite. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les facteurs du recul des blocs forestiers intacts, tous ces paysages forestiers intacts, ne sont pas les mêmes que ceux de la déforestation. Par exemple, pour la déforestation, le facteur principal c'est l'agriculture ou l'élevage. Par exemple, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans l'étude qui est proposée dans cette étude, la plantation de palmiers à huile, par exemple, ça ne représente que 0,2% du recul des blocs forestiers intacts. Mmh. Pourquoi ? Parce que, en général, on plante du palmier à huile dans des endroits qui ont déjà été exploités pour le bois. Et alors que, par contre, pour la déforestation, l'importance du palmier à huile dans la déforestation est beaucoup plus importante en termes de pourcentage. Donc, on n'a pas les mêmes facteurs.
On voit aussi, par exemple, que la Roumanie a entièrement perdu ses forêts intactes. Pourquoi ? Quelle est la cause, là ?
Voilà, c'est l'exploitation illégale, tout à fait. C'est-à-dire que très clairement, on a des activités humaines d'abord de type, ça peut être collecte de bois de feu, faire du charbon, etc. Et puis, on a eu, la Roumanie est un pays où l'application des lois est un problème. Et il y a énormément d'exploitations illégales qui s'est faites, y compris dans des aires protégées. Et on peut voir par satellite, effectivement, des endroits qui sont ravagés, où on voit des trouées dans la forêt, qui correspondent à des exploitations illicites.
Alain Carcinti, dans l'étude, justement, les auteurs s'interrogent sur l'efficacité des mesures de protection hein, de ces forêts intactes. Quels sont les points faibles qui sont relevés ?
Alors, ces forêts intactes, si vous voulez, elles n'ont pas de statut légal. C'est-à-dire que c'est pas non plus un concept écologique particulier. C'est une convention. Bon, on a pris 500 km² de forêt. Ça a été proposé par certaines organisations. Alors, c'est vrai que par contre, ça a une importance particulière parce que très souvent, la question de la dégradation souvent est un précurseur de la déforestation. C'est-à-dire, dès lors que vous ouvrez un massif forestier, vous faites des routes. Si vous n'avez pas de pression foncière, peu de paysans, peu d'habitants, comme au Gabon ou au nord du Congo, bon, la forêt va se reconstituer plus tard, ça pose peut-être moins de problèmes, mais par contre, là vous avez beaucoup plus de population, de pression foncière, vous allez avoir des installations permanentes, du braconnage, etc. Donc il y a effectivement un problème lié à la biodiversité, au transfert de gènes, à la mobilité des animaux et des espèces végétales, donc qui pose un souci. Le problème principal, c'est effectivement de savoir si cette dégradation est le précurseur, cette fragmentation est le précurseur de la déforestation. Ce n'est pas toujours le cas.
On ne sait pas encore.
Alors on ne sait pas encore, parce que ça dépend de pas mal de choses. Si vous prenez par exemple l'exploitation forestière en Afrique centrale, qui est probablement un endroit que je connais bien, c'est intéressant de voir que par exemple les routes forestières qu'on ouvre pour exploiter du bois, pour prendre de manière sélective effectivement du bois, comment ça marche ? Vous exploitez un espace pendant 2 ou 3 ans, ensuite vous avez une rotation, donc vous changez d'espace. Les routes qui ont été créées, les routes forestières, hein, au bout de quelques années, elles ne sont plus visibles, elles ne sont plus utilisées. Et au bout de 20 ans, elles sont totalement invisibles sur les images satellites. Donc si vous voulez, l'exploitation forestière, c'est une déforestation, c'est pas une déforestation justement, c'est une dégradation, c'est une perturbation qui est réversible et qui peut être provisoire. Donc la forêt peut se reconstituer. Ce n'est pas toujours le cas. Quand vous avez derrière, et ça a été beaucoup le cas en Asie du Sud-Est, des pressions pour faire des plantations de palmiers à huile ou des plantations d'eucalyptus ou d'acacia mangium, eh bien là, vous allez avoir effectivement une transformation, une déforestation derrière, mais qui commence généralement par la perte de ces forêts intactes.
Merci Alain Carcinti. Diminution de 7% donc, hein, de ces paysages de forêts intactes entre 2000 et 2013, voilà ce qui ressort de cette étude. Vous êtes économiste et spécialiste des forêts tropicales. Merci à vous. Et Agnès, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les prions qui pourraient également occuper des bactéries. Jusqu'à aujourd'hui, on savait que ces protéines déformées responsables de maladies neurodégénératives comme la vache folle étaient présentes dans les cellules qui comportent des noyaux, les eucaryotes. Or, des généticiens bactériens d'Harvard ont observé des protéines similaires aux prions dans des bactéries, donc dans des cellules sans noyau. Ainsi, l'apparition des prions daterait de plus de 2,3 millions d'années, époque où eucaryotes et bactéries ont commencé à évoluer séparément. Bientôt, un extincteur pour nos batteries. Après une année 2016 qui a vu les batteries lithium-ion de smartphones prendre feu, voici une invention qui pourrait bien retenir l'attention. Des chercheurs ont eu l'idée d'introduire un retardateur de flamme dans la batterie entouré de fibres de polymère sensibles à la chaleur. Ainsi, en cas de surchauffe de la batterie, le polymère fond et libère le retardateur. L'incendie est alors éteint en moins d'une demi-seconde. Et puis une base scientifique de l'Antarctique déplacée pour des raisons de sécurité, la station britannique de Halley, menacée par de gigantesques faille dans la glace qui se rapproche dangereusement. Il a donc été décidé de déplacer la station de plus de 23 km, mais également d'évacuer sa vingtaine d'habitants de mars à novembre pendant l'hiver antarctique. Car si un accident se produisait sur la banquise durant cette période, la nuit polaire et le froid intense rendraient une évacuation très compliquée. Grippe humaine, grippe animale, dossier en parallèle cet après-midi dans La Tête au Carré. Avec toutes vos questions dès maintenant, rejoignez-nous sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Et Bon Iver à l'instant.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Les grippes humaines, les grippes animales aujourd'hui donc dans le dossier de l'émission. Toutes vos questions à nos invités, franceinter.fr, le mot-clé l'attaque. Et donc pour en parler, je suis avec Vincent Hinouf, vous êtes virologiste, directeur adjoint du Centre National de Référence de la Grippe à l'Institut Pasteur. Et Gilles Salva, directeur de la Santé Animale et du Bien-être Animal à l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail. Vincent Hinouf, donc un mot d'abord sur l'Institut Pasteur, hein, qui abrite donc ce Centre National de Référence des Virus Influenza. Comment fonctionne ce centre également, et tout particulièrement en ce moment, dans ces périodes critiques où nombre de Français sont atteints par la grippe?
En ce moment, donc, on est en charge de la surveillance, c'est-à-dire qu'on reçoit des prélèvements de médecins généralistes à l'aide du réseau Sentinel et de laboratoires hospitaliers pour des cas sévères qu'on observe beaucoup actuellement.
Oui.
Et donc, on reçoit un grand nombre d'échantillons, à peu près 40 à 50 analyses par jour, que d'échantillons nouveaux.
Oui.
Ces échantillons, donc, on détecte ou pas la grippe dessus, mais en ce moment, on détecte à 60% de virus grippal et à 100% quasiment d'un virus qui s'appelle H3N2, qui est un virus qui est connu justement pour sa dangerosité, en tous les cas, et surtout pour sa grande épidémie, généralement, que l'on observe à chaque fois qu'il sévit. Mmh.
Donc ça, c'est ce virus que vous scrutez de très près, tout particulièrement là, cette année?
Cette année, oui, c'est le H3N2 qu'on observe, qu'on expertise, qui est un virus qui est celui qui circule, en tous les cas, en adéquation avec le vaccin.
Ouais.
Celui qui est dans le vaccin, qui a permis de faire le vaccin, est très proche de celui qui circule aujourd'hui.
Ouais. Alors justement, puisque le vaccin est déjà fait pour la grippe de cette année, le fait de scruter ces différents virus-là, ça vous sert à quoi, au fond?
Alors aujourd'hui, les virus que l'on expertise vont nous servir à une grande réunion qui va avoir lieu en février, donc très bientôt, où là, on va mettre nos informations en commun avec les autres laboratoires de référence du monde entier, de telle manière à établir, si besoin, la modification du prochain vaccin, en octobre prochain. Avec des modèles mathématiques, avec différentes observations, on va pouvoir déterminer si le virus H3N2 ou si le virus H1N1 ou si le virus de type D doit être modifié.
Donc vous y prenez 6 mois à l'avance, c'est ça, pour le futur vaccin déjà?
Alors on s'y prend si tôt parce qu'il va y avoir une période de production durant l'été, où là il y a forcément 3 à 4 mois de production par les firmes pharmaceutiques.
Ouais.
Et c'est le temps qu'il faut en effet pour préparer tous ces vaccins.
Ouais, mais alors comment est-ce que vous êtes capable d'anticiper justement pour pouvoir mettre au point le bon vaccin l'année prochaine, alors que la grippe de l'année prochaine n'est pas arrivée par définition?
Quelque part, ça pourrait être un pari en fin de compte, en effet. Et donc avec l'expérience que l'on a, on doit déterminer, même si parfois, certaines années, on se trompe quelque peu, parce que le virus va avoir évolué durant l'été, et va tellement avoir évolué dans l'hémisphère sud, que ça peut être un virus qu'on récupère durant notre hiver dans l'hémisphère nord.
Ouais, donc il y a un échange d'informations.
Il y a un échange d'informations
en tous les cas, vers le nord.
Il peut y avoir un passage, soit par l'homme, soit par différentes manières, mais il peut y avoir des passages entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord.
Est-ce que le vaccin qui est fabriqué, et puis ensuite on passera à la question animale avec Gilles Salva, est-ce que le vaccin qui est fabriqué en France, pour la France, est le même pour toute l'Europe et pour le reste du monde?
Alors le vaccin qui est fabriqué en France, en tout cas pour l'hémisphère nord, et le vaccin qui respecte la composition de l'hémisphère nord. Donc ça veut dire que les États-Unis, pour lesquels ils ont des épidémies aussi à H3N2, c'est une année où, en tous les cas pour l'hémisphère nord, on a vraiment une épidémie à H3N2 quasiment à 100%.
Oui.
Eh bien, c'est la même composition vaccinale. Après, vous avez les différents producteurs de vaccins qui peuvent avoir leurs petits trucs pour avoir des petites différences, mais en tout cas, la composition est exactement la même.
Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve dans un vaccin alors, exactement? Il y a plusieurs souches virales?
L'avantage du vaccin grippal saisonnier, c'est un vaccin déjà sans adjuvant. Le vaccin avec adjuvant, c'était le vaccin qu'on avait eu en 2009 lors de la pandémie.
Message pour rassurer les foules.
On peut dire ça.
Ouais.
Donc là, le vaccin saisonnier est un vaccin sans adjuvant, qui contient 3 souches. Il va contenir la souche H3N2, une souche H1N1 et une souche de type B. Et maintenant, il existe aussi un vaccin avec 4 souches, avec les 2 virus de type B dedans.
Donc on multiplie les souches pour être sûr de tomber sur la bonne chez la personne qui va se vacciner.
Hein. Les producteurs, les firmes pharmaceutiques durant l'été vont produire ces 4 souches, vont les pouler, vont les combiner les unes avec les autres, la protéine HA et la protéine NA, qui est une protéine immunogène, donc qui va favoriser justement la production d'anticorps contre éventuellement le virus qui pourrait vous infecter l'hiver suivant. et cela forme le vaccin.
Est-ce qu'on a encore de la grippe A dans les vaccins en ce moment ou pas?
Qu'est-ce que vous appelez la grippe A?
Pardon, le H1N1.
Le H1N1 pandémique 2009, il y a une souche encore dans le vaccin, tout à fait. Depuis 2009,
c'est ça.
C'est la souche H1N1.
Elle reste toujours tout à fait dans le vaccin qui est proposé.
Exactement.
Ouais. Avec des évolutions, donc vous étudiez ça très finement chaque année.
Jusqu'à l'année dernière, le vaccin comportait réellement la souche H1N1 pandémique 2009. Et là, cette année, on a une petite évolution, donc on avait changé le virus.
Gilles Salva, alors, on se retourne vers vous pour parler des animaux, parce que là, on observe finalement un phénomène aussi d'augmentation des cas par rapport aux années précédentes. Alors, du côté d'abord des grippes animales, comment est-ce que vous travaillez à l'ANSES?
Alors, nous sommes laboratoire national de référence, ce qui peu ou prou est pour l'animal le pendant de ce que fait l'Institut Pasteur.
Ouais.
Et nous avons un rôle de... Le premier diagnostic sur les cas d'influenza aviaire chez les oiseaux est fait par des labos de proximité, donc des labos départementaux en général, en particulier en ce moment les Landes, la Dordogne. Et nous faisons la confirmation du caractère hautement pathogène de ce virus pour les oiseaux. À la différence de la grippe humaine, on a deux sortes de virus chez les volailles, des virus faiblement pathogènes qui provoquent peu de symptômes, qui circulent à bas bruit dans les populations et qui ne nécessitent pas forcément de prendre des mesures très, très drastiques.
Comment on traite les animaux dans ces cas-là?
Alors, les animaux ne sont pas traités, en fait. Ils sont souvent, en particulier pour les palmipèdes, souvent porteurs asymptomatiques. Donc, ils n'ont pas de signes. Et puis, on a des virus faiblement pathogènes. Et en fait, pour déterminer le caractère hautement pathogène, de ces virus, on doit séquencer un petit morceau du génome, de la partie du génome H5, enfin H en général, et là c'est H5 en ce moment, et sur cette petite partie du génome, on a ce qu'on appelle un site de clivage. Quand ce site de clivage existe, en fait, ça nous dit que le virus est hautement pathogène. Alors c'est beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant, puisqu'avant, pour savoir si un virus était faiblement ou hautement pathogène, il fallait l'inoculer à des petits poussins et regarder à quelle vitesse il mourait.
Ouais.
C'était beaucoup plus cruel. La biologie moléculaire nous aide.
Alors, qu'est-ce que vous faites dans votre rôle, votre mission principale?
Alors, notre mission, c'est de développer des méthodes pour détecter ces virus, d'essayer de comprendre comment circulent ces virus, comment ils se transforment et comment ils s'adaptent aux différentes espèces animales, d'essayer de voir aussi, en collaboration avec les équipes de, notamment de Pasteur.
C'est un risque de transmission à l'homme.
Voilà, et du CNR associé à Lyon, de voir s'il y a des possibilités de passage interespèces entre les oiseaux et les mammifères et les oiseaux et l'homme.
Ça, c'est vraiment la grande préoccupation, justement, dans ces grippes animales? Alors, c'est le passage possible à l'homme ou pas?
Je dirais qu'il y a deux raisons pour lesquelles on lutte contre ces grippes animales, en particulier l'influenza aviaire. La première, c'est parce que c'est une maladie, c'est une peste chez les oiseaux. C'est une maladie qui tue énormément et très vite les oiseaux, en particulier ce H5N8 qu'on a cette année. La deuxième raison, c'est que si on laisse circuler ces virus chez les animaux, ils ont la possibilité d'infecter d'autres espèces animales où ils vont rencontrer des virus humains. Par exemple, chez le cochon, le cochon est réceptif au virus humain, au virus aviaire et au virus du cochon, évidemment.
Donc, il cristallise beaucoup de choses.
Et donc, on peut avoir... Alors, ça se passe plus souvent en Asie, parce qu'il y a une plus grande proximité entre les différentes espèces animales et l'homme. Et on peut avoir, à cette occasion, une co-infection d'un cochon, d'une cellule, par plusieurs virus issus de lignées différentes et d'espèces différentes, et une transformation de ces virus, ce qu'on appelle des réassortiments, en fait, qui vont produire parfois de nouveaux virus pandémiques. Mmh. Et c'est aussi pour ça qu'on lutte contre les maladies animales.
Vincent Hinouf, ça c'est la grande préoccupation, vraiment, ce passage possible de l'animal à l'homme?
Oui, c'est quelque chose auquel on fait très attention, et notamment actuellement en période saisonnière grippale, comme le disait Gilles, il peut y avoir des réassortiments, et notamment on peut très bien imaginer un virus humain infectant, capable d'infecter le porc avec un autre virus aviaire, par exemple H5N8, et que ce virus H5N8, à chaque fois qu'il va infecter, et il mute en fait. Tous ces virus grippaux mutent humains comme aviaires. Et vous pouvez avoir des mutations qui vont être favorables et d'autres défavorables qui vont donner la mort à ce virus. Mais une mutation favorable peut très bien être une mutation qui va permettre à ce virus aviaire d'infecter un petit peu l'homme, d'être un tout petit peu capable d'infecter l'homme. Il y arrive une fois. Bon, et puis après, il part. Et puis, on le revoit pas pendant 1 ou 2 ans. Et puis, il va réinfecter. Et à chaque fois qu'un virus réinfecte, il acquiert une information, une mutation, qui pourra lui permettre, soit tout de suite, soit plus tard, d'infecter l'homme.
Il acquiert une virulence aussi, on peut dire les choses comme ça, génération après génération.
C'est ça. La virulence, c'est l'adaptation, en fait, quelque part. C'est la capacité et la force d'avoir muté et d'avoir intégré cette mutation pour se rendre plus virulent.
Ouais, pourquoi il y a mutation chez un virus? Quel est son intérêt, entre guillemets?
Alors, son intérêt, si je parle de virus saisonnier, c'est que à un moment donné dans la population, même si on parle de vaccination et qu'il n'y a pas suffisamment de personnes vaccinées, vous allez avoir une couverture immunitaire, enfin d'immunité dans la population. C'est-à-dire que même des gens vont être infectés, d'autres vont être vaccinés, et donc des gens ne seront plus capables d'être infectés par un virus. Donc le virus, pour survivre, il va falloir qu'il infecte d'autres, mais il peut pas puisque les personnes sont les mêmes. Donc il va falloir qu'il change lui-même, de telle manière à rendre le système immunitaire des personnes infectées incapable de se défendre. Donc, il mute pour acquérir ces modifications qui vont provoquer chez la personne humaine l'ignorance, je dirais, de son système immunitaire face à ce nouveau virus.
Gilles Salva, une question d'une auditrice de Pau qui nous dit ceci. Est-ce que les oiseaux sauvages sont les vecteurs principaux de la grippe aviaire ?
Alors, les oiseaux sauvages sont des vecteurs de l'influenza aviaire. Mmh. Probablement le vecteur d'introduction dans un élevage. Hein. Un virus nouveau comme celui qu'on a cette année n'est pas arrivé, probablement pas arrivé autrement que par des oiseaux sauvages sur le territoire européen. Par contre, après, c'est les pratiques d'élevage, les échanges d'animaux entre élevages, le matériel d'élevage qui peut être contaminant d'un élevage à l'autre. Hein. On a entre 130 et 140 cas actuellement là dans le sud-ouest en particulier. Une grande partie de ces cas ne sont pas liés à des contaminations par les oiseaux sauvages.
Vous répondez à la seconde partie de la question justement de cet auditeur qui demandait est-ce qu'il faut chercher du côté des concentrations d'oiseaux où la contamination est facilitée a priori ?
Alors oui, à la fois chez les oiseaux sauvages et chez les oiseaux domestiques puisque on a plus fréquemment des cas dans des grands troupeaux d'oiseaux sauvages quand ils migrent en troupeau et qu'ils arrivent sur un lac. Plus on a d'oiseaux, plus on a de possibilités de multiplication du virus. Donc effectivement, quand on a des très grands élevages, ça se voit beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus d'oiseaux sensibles, hein, tout simplement. Et puis ça propage d'autant mieux le virus qui se multiplie chez plus d'individus.
Ouais. Vincent Hénouf, une question de Léo. À quoi correspondent les noms donnés aux vaccins, notamment les lettres H et N?
Alors ces lettres correspondent aux initiales de deux protéines externes de la particule virale, l'hémagglutinine, HA, et la neuraminidase, NA. Faut savoir qu'il en existe 16 HA, on peut parler de 18 aujourd'hui, si on tient compte des virus grippaux de chauve-souris, si c'est bien ça, et 9 NA. Et donc la combinaison, vous imaginez tout type de combinaison dans le monde aviaire, dans la faune animale je dirais, alors que pour les virus humains, vous n'avez que les combinaisons H3N2, H1N1 qui existent. Et donc, il n'y a que ces virus saisonniers qui infectent l'homme. En tous les cas, dans la faune aviaire, vous avez toutes les combinaisons possibles. H5N1 déjà connu, H7N9. Certains ont déjà infecté l'homme, mais sont toujours incapables de passer d'homme à homme ensuite.
Gilles Salva, à quel moment on décide de l'abattage des animaux, d'ailleurs ?
Eh bien, en fait, dès qu'on a des symptômes, la première alerte, ce sont des symptômes d'influenza chez les volailles, qui conduisent à un diagnostic qui va, s'il est positif, conduire à un abattage de l'ensemble du troupeau, à une définition d'une zone de 3 km qu'on appelle la zone de protection. Dans cette zone-là, alors, on peut choisir d'abattre tous les animaux dans cette zone-là pour éviter que le virus diffuse ou simplement de les surveiller fréquemment pour voir s'il n'y a pas d'autres troupeaux contaminés. Et on a ensuite un autre anneau de 10 km qui est la zone de surveillance sur laquelle on a une vigilance particulière pour éviter justement de voir ces virus se propager trop vite.
On va entendre un éleveur de canards qui s'exprimait en janvier, donc cette année, le 5 janvier très exactement sur France Inter.
Mais nous, on se sent mal parce que nos canards, si on est éleveur, c'est qu'on aime un peu quand même les animaux. Et ça fait 3 mois qu'on les voit. Là, on sait qu'ils vont être abattus. Et on continue à les choyer comme si on allait vraiment les gaver pour les vendre en canard, quoi. On continue à leur donner à manger, à les surveiller. On continue à leur faire la litière pour qu'ils soient bien, alors qu'on sait très bien qu'ils vont être abattus pour partir à l'écarissage.
Est-ce que vous êtes en colère ?
Oui, parce qu'on travaille, on a fait des aménagements et on est toujours au même point. À chaque fois que l'on intervient dans l'élevage, eh bien, on se change, on se désinfecte, on lave et on désinfecte les véhicules, le matériel. Donc on travaille, je pense, à peu près 1 heure de plus par jour pour toujours le même salaire, quoi. Et voilà.
Voilà, cet éleveur des Pyrénées-Atlantiques, Gilles Salva, un commentaire justement sur ses propos, parce qu'il témoigne de ce que ressentent beaucoup d'éleveurs, évidemment.
Effectivement, et la situation des éleveurs qui sont touchés ou qui sont dans les zones touchées est dramatique, hein, puisque l'ensemble des animaux de la zone en particulier, qui est fortement infectée en ce moment, vont être abattus. Mais c'est, je dirais, c'est le prix à payer pour se débarrasser de ce virus et éviter qu'il ne circule pendant des mois et des mois de façon récurrente parce qu'on n'a rien fait pour l'arrêter. Alors, évidemment, on va abattre d'abord les animaux contaminés, les élevages dans lesquels il y a des animaux contaminés, mais on abat aussi autour de ces élevages toutes les espèces sensibles pour éviter qu'elles servent de relais pour que la propagation se fasse de proche en proche.
Claude se demande si de tels abattages sont toujours justifiés. Est-ce que, justement, sous couvert de prévention, on n'y va pas un peu fort?
Alors, sur des virus comme le H5N8 que nous avons cette année, c'est particulièrement justifié parce que c'est un virus qui est... D'habitude, ces virus de l'influenza aviaire sont peu pathogènes pour les canards, provoquent peu de symptômes. Celui-là tue beaucoup de canards. Et donc, c'est une vraie catastrophe économique, hein, au-delà des abattages qui sont consentis sur des animaux sains. C'est une catastrophe économique. Et l'autre partie, c'est que si on laisse ces virus circuler, le risque d'avoir une transgression de la barrière d'espèce est de plus en plus important. Donc, c'est à la fois de la santé publique vétérinaire pour éviter les conséquences économiques de cette maladie à long terme et de la santé publique aussi, au sens large, pour l'homme, pour également protéger l'homme d'une éventuelle transgression de la barrière d'espèce.
Qu'est-ce que prévoit la législation? Une petite parenthèse là-dessus, lorsque justement des animaux sont abattus dans un élevage et l'ensemble de l'élevage, ils sont remplacés immédiatement ou il y a une période de carence?
Alors ils sont pas remplacés immédiatement parce qu'il faut le temps que qu'on se débarrasse du virus dans l'environnement.
Oui,
donc on va nettoyer, désinfecter l'élevage. Et puis souvent, comme on a là des animaux élevés en liberté sur des parcours, il faut attendre au moins une quarantaine de jours que les parcours, en fait, naturellement, que les virus s'éliminent naturellement les parcours. Ce qui est d'autant plus long qu'il fait froid et qu'on est dans une période humide.
Vincent Hinouf, pourquoi cette période est-elle aussi favorable à la survenue des grippes, alors l'hiver, quand il fait froid?
Il y a plusieurs facteurs. En effet, en ce moment, il fait froid. Il faut savoir que nous, on conserve nos virus dans les laboratoires à moins 80 degrés. Donc plus il fait froid et un froid humide, mieux le virus se conserve. Et donc, il va se conserver d'autant plus longtemps. Et donc, la probabilité à ce que quelqu'un puisse passer là où vous avez éternué, par exemple, sur dehors ou n'importe où, et vous posez votre main et vous l'approchez de votre visage, eh bien, vous pouvez être infecté. Ça, c'est une première chose. Après, en effet, quand il fait froid, vous êtes déjà agressé par le froid. Donc, vous avez vos capacités respiratoires qui peuvent être un petit peu diminuées ou même irritées. Et donc, le fait d'être irrité, vous êtes plus à même d'être infecté par un virus respiratoire, que ce soit la grippe ou que ce soit un autre. Hein. On parle toujours de syndrome grippal, mais il faudrait plutôt se parler de syndrome viral. Car il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que quand vous sortez de chez le médecin et qu'on vous dit que vous avez un symptôme grippal, c'est pas forcément dû à la grippe. Ça peut être dû à un autre virus respiratoire. C'est comme si vous étiez infecté par la grippe, mais ce n'est pas la grippe. Et vous allez vous en remettre normalement au bout de 2 ou 3 jours. Alors que quand vous êtes atteint de la grippe, c'est vraiment une maladie qui fait mal. Vous avez des myalgies, vous éternuez énormément, vous avez des toux, et vous mettez bien souvent plus d'une semaine à vous en remettre. Donc là, le terme, faut y faire attention.
D'ailleurs, la grippe, la plupart des personnes guérissent sans traitement médical, au fond.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'on attend une semaine et ça part normalement, naturellement?
Oui, il faut essayer de faire diminuer la température, et puis en effet, faut attendre de telle manière à ne plus tousser pour éviter de diffuser la maladie, le virus. Mais en effet, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut utiliser des antiviraux. Il existe des antiviraux qui peuvent être utilisés. Il faut les utiliser très tôt après le début des symptômes, 48 heures, car ce sont des molécules qui empêchent le virus de se multiplier dans vos cellules. Donc plus tôt vous le prenez, moins il y a de cellules infectées, plus vite vous allez neutraliser le virus.
Allez, des questions sur les vaccins. Je vous les poserai évidemment dans un instant. Puis beaucoup de messages des auditeurs qui nous rejoignent tant pour les humains que pour les animaux sur le site de l'émission franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque sur les réseaux sociaux. Western arabisant, elle s'appelle Sarah Maison.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Il ne s'agit pas d'une simple grippe saisonnière, malheureusement. Il suffit d'une journée à cette grippe pour qu'un cas bénin devienne d'une gravité extrême et que mort survienne. Plus surprenant encore, la période d'incubation qui parfois ne dépasse pas 4 heures.
Ce qui explique pourquoi des familles entières sont contaminées presque en même temps. Sans que l'Académie de médecine s'en émeuve, d'ailleurs.
Mais à la décharge des autorités médicales, il faut reconnaître que les symptômes très sévères évoquent plutôt la peste pulmonaire.
Et la veille sanitaire.
Mais la grippe ne figure pas sur les listes des maladies à risque, comme la diphtérie, la rougeole, la scarlatine, la méningite, les oreillons, la tuberculose.
Pourquoi ces draps tendus entre les lits dans cette salle commune que j'aperçois au fond du couloir ?
Pour isoler les malades trop atteints et protéger les autres de la contagion.
Même le sol dans le couloir. Ne me dites pas que vous manquez de lit.
Des familles entières demandent à être hospitalisées. Des malades cyanosés, dyspnéiques, angoissés. D'autres nous arrivent presque mourants. Impossible de les refuser, même s'il ne leur reste que peu de temps à vivre.
Et on enterre les corps la nuit ?
Faut de temps, oui.
C'est une véritable catastrophe humanitaire. Et vous ne maîtrisez toujours pas la situation.
Nous tâtonnons, c'est vrai.
Extrait au fil de l'histoire, diffusé sur France Inter en 2011 autour de la grippe espagnole, la terreur du XXe siècle, la grippe humaine et grippe animale avec mes invités Vincent Hénouf, virologiste à l'Institut Pasteur et Gilles Salva, directeur de la santé animale et du bien-être animal à l'ANSES. Alors Vincent Hénouf, d'abord, effectivement, il y a eu quand même beaucoup de personnes décédées, 50 millions estimés par l'Institut Pasteur d'ailleurs, je crois, pour la grippe espagnole.
Oui, là j'ai pas les chiffres en tête, mais en effet c'était énormément de...
Entre 50 et 100 millions, enfin selon les chiffres. Hein. Millions, oui. Ouais. Jean-Paul demande d'ailleurs, la grippe espagnole qui a sévi donc, à cette époque-là, 1918 en particulier, est-ce que ça n'était pas le résultat d'une mutation d'un virus ?
Non, enfin, c'était... je pense que... Enfin, c'est vrai, mais la santé publique au niveau de la population n'est pas du tout la même. Les gens n'étaient pas forcément en très très bonne santé, et surtout comme aujourd'hui. Et un virus, en effet, qui avait une capacité de virulence importante, en effet, a provoqué une pandémie.
On pourrait aujourd'hui assister à un phénomène identique ou pas du tout ?
Alors, on pourrait avoir un phénomène identique si on avait affaire à un virus complètement différent de ceux que l'homme a rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et justement, C'est pour ça qu'on travaille, je dirais, laboratoire. Enfin, on communique beaucoup entre les laboratoires animaux et les laboratoires humains,
ouais.
Parce que le risque vient de là. Ce serait un virus animal
inconnu
ouais. Qui n'a jamais infecté l'homme, qui du jour au lendemain infecterait l'homme
mm-hmm.
et qui aurait la faculté et justement ouais. tout le tableau pour pouvoir infecter à grande échelle.
Gilles Salva, vous en repérez de temps en temps des virus inconnus ?
Alors, des virus inconnus, enfin, chaque virus est nouveau, hein. Par exemple, ce H5N8, on a vu un H5N8 apparaître en Europe en 2014 à partir d'oiseaux sauvages qui venaient de Corée du Sud.
Mmh.
Et donc, quand celui-ci est arrivé cette année, fin 2016, on a pensé que c'était peut-être le même. En fait, on s'est rendu compte qu'il avait le même H5 et le même N8 que celui de 2014. Un autre segment interne, il y a 8 segments dans un virus grippal. Un autre segment NS qui était identique aussi à ce virus de 2014. Par contre, 5 nouveaux segments viraux qu'il avait obtenus par réassortiment, par co-infection, comme on le disait tout à l'heure, d'une cellule par plusieurs virus. Et donc, c'est un virus relativement nouveau qui ressemble beaucoup, par contre, à un virus qui a été isolé en juin 2016 autour du lac de Touva, en Russie. Mais qui, depuis juin 2016, a déjà fait 2 souches virales, puisque même en France, on a séquencé actuellement 2 virus, un qui a été isolé sur des oiseaux sauvages dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, mmh. et un autre, dans le premier cas, sur des oiseaux domestiques dans le Tarn. Et ces 2 virus sont différents. Il y en a un qui ressemble, celui du nord ressemble à ceux de la Baltique,
mmh.
qui circulent actuellement dans la Baltique, et celui du sud-ouest ressemble à ceux qui circulent actuellement en Croatie, en Hongrie.
Donc quand vous observez ces nouvelles combinaisons virales, vous les pistez évidemment. Vous les suivez vraiment à la trace pour voir comment elles vont évoluer?
On les suit à la trace, c'est pour ça qu'on séquence maintenant complètement les virus pour essayer de repérer des petites mutations qui indiqueraient que le pouvoir pathogène du virus change.
Mm-hmm.
Alors souvent en pire, hein, quand on continue à le trouver. Vérifier que ce virus ne s'adapte pas à l'homme, ce qui est le cas de celui-là. Hein. C'est un virus qui est, pour le moment, ne présente aucun des principaux déterminants de pathogénicité pour l'homme,
mmh.
mais on suit de très près ces mutations pour justement alerter nos collègues du Centre National de Référence sur la possibilité d'émergence éventuelle d'un virus qui passerait aux mammifères en particulier.
Quelle réactivité on peut avoir, Vincent Hinouf, alors par rapport à un virus inconnu pour la fabrication, par exemple, d'un vaccin? On peut vraiment se retourner très très vite ou pas?
Alors pour la production d'un vaccin, se retourner vite, non, ça reste compliqué. En revanche, dans un premier temps, et là c'est le cas actuellement avec le H5N8, c'est qu'à l'aide des séquençages qu'a pu effectuer les laboratoires de Gilles, eh bien, on a récupéré les séquences et on a mis en place, comme lui sans doute, un système de détection de ce virus. Donc très rapidement, en l'espace de 2 semaines, on crée une nouvelle méthode de détection de telle manière à être capable de détecter s'il y avait une alerte quelque part, ce virus. Après, fabriquer un vaccin, dans ce cas-là pandémique, on l'a vu en 2009 avec le H1N1 pandémique, le temps minimum, c'est au moins 4 mois, je dirais.
Mmh.
En 4 mois, des vaccins peuvent être produits, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et surtout, dans les premiers temps, il faut forcément qu'il y ait un passage d'expertise. Il faut qu'on expertise ce virus pour connaître réellement sa dangerosité. C'est un virus nouveau, mais il faut connaître la dangerosité avant de lancer toute cette production.
Geneviève demande pourquoi les personnes vaccinées attrapent-elles quand même la grippe? Beaucoup de personnes se posent la question, évidemment. Pourquoi il y a des ratés, alors?
Alors, les ratés, il faudrait savoir quelles sont les catégories d'âge. Hein. Déjà, il n'y a pas suffisamment de personnes vaccinées, mais en tous les cas, quand les personnes âgées le sont, faut savoir qu'une personne âgée a un système immunitaire qui est beaucoup plus moins vaillant, je dirais. Et donc, en moyenne, je ne sais pas exactement quel est le nombre de personnes qui réagissent à ce vaccin, mais tout le monde ne réagit pas à ce vaccin. Et donc, vous pouvez très bien être vacciné, et si on a réellement détecté la grippe, dire que vous avez été vacciné et malade quand même de la grippe. Mais il faut faire attention aussi, vous pouvez très bien être vacciné, il faut une période de 10 à 15 jours avant d'être immunisé,
mmh.
et tomber malade pendant cette période de 10 à 15 jours. Vous n'étiez pas encore immunisé. Et là, c'est ce qui est arrivé, par exemple, avec l'exemple de la maison de retraite, c'est que les gens ont été vaccinés beaucoup trop tard.
Oui, il y a eu 13 personnes décédées, je crois.
13 personnes décédées, ou trop tard, ou pas du tout vaccinées. Mmh. Donc, quand le vaccin est libéré au mois de septembre-octobre, il faut se faire vacciner à ce moment-là.
Ouais, mais alors, en dehors des personnes à risque, hein, vraiment, les jeunes enfants et les personnes âgées, imaginons une personne adulte en bonne forme physique, quel est l'intérêt vraiment de se vacciner aujourd'hui? Puisqu'on le disait tout à l'heure, au bout d'une semaine, finalement, on se soigne naturellement de la grippe. Donc, quel est l'intérêt? Puisque, au contraire, on pourrait se dire, on laisse nos défenses immunitaires faire leur boulot, quoi, non?
Vous venez de le dire, en effet, il n'y a pas grand-chose à faire, mais une semaine, c'est justement des arrêts de travail. Donc si vous multipliez tous ces arrêts de travail, en effet, ça va faire un manque à gagner important. Et puis, honnêtement, quand vous... Vous avez eu la grippe au moins une fois, retomber malade réellement de la grippe, c'est difficile. Donc se faire vacciner, c'est quand même se protéger soi, mais c'est surtout protéger ces personnes âgées, ces tout petits. Mm-hmm. À partir du moment où vous êtes vacciné et que le virus ne vous infecte pas, vous êtes un maillon qui va empêcher la diffusion du virus. Donc c'est pas penser qu'à soi, c'est aussi penser aux autres.
Gilles Salva, cette question de Daniel, il y a plusieurs questions d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on continue à parler de grippe aviaire alors que tous les scientifiques s'appliquent à considérer que ce virus hautement pathogène est un influenza aviaire ou plus communément une peste aviaire? Et ceci depuis le début des épizooties.
Alors, je pense qu'on parle de grippe aviaire un peu par simplification, parce que ce sont les mêmes virus dans leur structure que les virus de la grippe. Simplement, chez les oiseaux, ça n'est pas une grippe, parce qu'une grippe est une infection virale qui se transmet par voie respiratoire. Chez les oiseaux, ça se transmet à la fois par voie respiratoire, par voie fécale, et en fait, ça infecte tous les organes, y compris les tissus nerveux, les tissus internes. C'est pour ça qu'on appelle ça une peste, en fait.
C'est pas très vendeur, évidemment.
Évidemment, on évite d'utiliser ce terme de peste de plus en plus et on parle d'influenza aviaire.
Ouais. Même chose du côté des humains, Vincent Hainouf, on pourrait parler de peste humaine ou pas ?
Non.
À la place de la grippe ou on...
Non, en fin de compte, il n'y a que les sphères respiratoires qui sont infectées par le virus. On a observé du virus dans le sang, mais dans ce cas-là, ou dans les selles, c'est plutôt des virus aviaires ayant infecté l'homme, qui ont un tropisme, en fait, des lieux, je dirais, d'amplification différents des virus saisonniers que l'on a l'habitude d'observer.
Ce virus transporté par les oiseaux, notamment par les migrateurs, nous dit Daniel.
Oui. Alors, il est transporté effectivement par les migrateurs et souvent, en fait, on regarde ce qui se passe dans l'hémisphère sud un an avant et on se rend compte que un certain nombre, enfin, hémisphère sud en partie, en particulier en Asie du Sud-Est, et on constate que très souvent, on a en Europe, du fait de ces grandes migrations, alors une partie qui va vers l'Europe, une partie qui va par le détroit de Bering vers le Canada et les États-Unis, on récupère avec un an de décalage à peu près les virus qui circulent en Asie chez les oiseaux sauvages et les oiseaux domestiques.
Daniel nous dit, j'ai toujours appris que les formes de peste étaient portées par les rats. Lorsqu'on fréquente la campagne et ses élevages, on peut facilement se rendre compte d'une prolifération des rats, notamment près des lieux où ils peuvent se nourrir en hiver. Cette possibilité d'infestation par les rats a-t-elle été étudiée? Et si oui, quels sont les résultats?
Alors, les rats sont des mammifères et ces virus influenza se transmettent très mal aux mammifères et c'est vraiment pas là pour le coup les rats qui sont le vecteur. Ils sont vecteurs d'autres maladies, hein, beaucoup de bactéries notamment. Mais pas de ces virus influenza du rat à l'oiseau.
Vincent Hainouf, comment va évoluer cette grippe 2017 là ? Est-ce qu'il est facile de faire des projections sur les jours, les semaines qui viennent ? On a à peu près le profil de ce qui va se passer ou pas ?
Non, on peut pas. On a peut-être une petite idée. On est peut-être en phase de décroissance, même si, comme je vous le disais tout à l'heure,
on est sur une phase de plateau là, en ce moment.
De plateau, hein. Voilà. Bon. Mais il y a encore énormément de cas détectés aujourd'hui. Je peux pas dire à quelle vitesse justement l'épidémie va décroître.
Donc encore beaucoup d'incertitudes.
Beaucoup d'incertitudes
sur les projections.
Sans doute encore beaucoup de malades à venir d'ici les 2-3 semaines à venir.
Gilles Salva, on termine par cette question de Dominique sur Facebook. Pourquoi détruire les canards contaminés alors qu'on pourrait en faire d'excellentes rillettes inoffensives après cuisson, évidemment.
Eh bien alors. Effectivement, l'influenza, la grippe des oiseaux ne se transmet pas à l'homme en mangeant, mais simplement les réglementations françaises, européennes, internationales interdisent la commercialisation d'animaux malades, évidemment. Et je pense que nos consommateurs ne seraient pas très contents de savoir qu'ils ont des animaux malades dans leur assiette.
Une rillette de canard grippé, c'est pas très vendeur. Hein.
Non,
bon,
pas
mais
tellement.
La question était intéressante quand même. Merci à tous les deux, Gilles Salva et Vincent Hainouf. Vincent Hainouf, j'imagine qu'on peut avoir des infos sur la grippe humaine en allant sur le site de l'Institut Pasteur où un certain nombre d'articles sont en circulation. Merci beaucoup à tous les deux et pour vos réponses à toutes ces questions.
La chronique de Pierre Barthélémy en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Et aujourd'hui vous nous parlez de bonnes résolutions. C'est l'époque,
oui,
comme
Mathieu.
La galette des rois. Hein.
Est-ce que vous en avez pris le 1er janvier ?
Non, j'ai arrêté d'en prendre.
Hein. D'accord. Ouais. Alors si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que plus de 2 semaines se sont écoulées depuis le jour de l'an et qu'il est temps de dresser le premier bilan de ces bonnes résolutions.
Mais
certains
oui.
ont probablement déjà laissé tomber.
Voilà.
Comme moi qui m'étais juré de ne plus associer le nom de Donald Trump à la crétinerie, mais le principe de réalité l'a emporté. Le 1er janvier, c'est l'heure du nouveau départ, l'heure de ne plus médire de son chef ou de ressortir le vélo d'appartement de de la cave, histoire de perdre enfin ces kilos en trop. Mais est-ce que ça marche, prendre des bonnes résolutions? Plusieurs travaux ont tenté de répondre à la question. Cependant, comme l'a fait remarquer une étude américaine publiée en 2002, la plupart de ces expériences ne disposaient pas d'un groupe témoin, le fameux groupe témoin. Elles ne comparaient pas le succès ou l'échec des résolus du nouvel an avec les performances du Kidam qui, un beau matin, décide d'arrêter les tartines au cassoulet au petit déjeuner.
Alors, comment s'est passée cette sérieuse expérience scientifique?
Alors, pour savoir si les résolutions de jour de l'an étaient plus faciles à tenir que celles prises n'importe quand dans l'année, les auteurs de cette étude ont téléphoné à près de 1300 personnes entre le 26 et le 31 décembre pour leur demander si, déjà, elles avaient envie de résoudre un de leurs problèmes de leur existence et si, ensuite, elles étaient d'accord pour jouer les cobayes. Alors, les scientifiques se sont retrouvés avec 159 sujets et ont décidé de prendre une bonne résolution le 1er janvier suivant. Et 123 qui ne disaient pas « le changement, c'est maintenant », mais qui avaient tout de même envie d'améliorer un truc un jour. Et l'expérience a commencé. À 4 reprises pendant le semestre qui a suivi, les chercheurs ont téléphoné à leurs cobayes pour savoir si les résolus tenaient bon et si les autres avaient décidé de s'y mettre.
Alors Pierre, les résultats.
Alors comme on pouvait s'y attendre, le taux de réussite a diminué au fur et à mesure que l'expérience a avancé, mais ils étaient 46% des résolus du jour de l'an quand même à n'avoir pas craqué au bout de 6 mois.
Ah, c'est pas mal, hein.
Et que s'est-il passé dans le groupe témoin, vous allez me demander. Les 51% qui se sont finalement décidés à se bouger, mais pas le 1er janvier, ont vite fondu après 6 mois. Seuls 4% des membres de ce groupe témoin tenaient bon la rampe. Conclusion, profiter du changement d'année pour tenter un changement de vie semble vraiment conférer un surcroît de détermination et je cesserai donc de me moquer de Donald Trump le 1er janvier 2018.
Voilà, donc on en prend pour un an et on retrouve cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au menu de ce supplément, Pierre?
Alors cette semaine, notre dossier s'intéresse au bien-être des soignants à l'hôpital parce que malgré les restrictions budgétaires, les réorganisations, comment peut-on améliorer les conditions de travail des personnels hospitaliers avec pour objectif une meilleure prise en charge des patients?
Et puis demain sortira en kiosque le nouveau numéro de la collection Voyage dans le cosmos en partenariat avec La Tête au Carré, Pierre. Nouveau numéro qui sera consacré à la gravité quantique,
oui,
qui est l'unification de la théorie quantique et de la relativité générale. C'est donc demain dans les kiosques.
Le Graal des physiciens.